Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
L'ossuaire de Turin, pour beaucoup depuis la datation au carbone 14, l'affaire est classée lorsqu'en 1988, un groupe de scientifiques, après l'analyse d'un morceau de ce tissu, ont conclu à une datation du 13e et 14e siècle. L'opinion publique en a conclu, elle, à une supercherie de l'Église catholique. Pourtant, lorsque l'on s'intéresse d'un peu plus près à ce célèbre morceau de tissu censé représenter Jésus de Nazareth, un certain nombre d'éléments posent des questions profondément troublantes et laissent interrogatifs quant à l'origine de cette relique supposée du ressuscité. Explication. Voilà pour cette émission Vivante Église ce matin. Saint-Suaire, la relique du Christ, point d'interrogation. Je reçois le docteur Pierre Méra. Vous êtes ancien président du CIELT, Centre international d'études sur le linceul de Turin. Bonjour.
Bonjour.
Alors, première chose, le linceul de Turin, la datation au carbone 14, on va essayer de ne pas commencer par ça. J'aurais tout simplement que vous nous décriviez, vous certainement, qu'il avait observé sous toutes ses coutures, à la différence de beaucoup d'auditeurs qui peut-être en ont entendu parler, peut-être que certains se sont déplacés à Turin, mais quand on se déplace à Turin, en fait, on a juste le temps de regarder, éventuellement de prendre une photo, et encore, je ne sais pas si c'est autorisé. Qu'est-ce qu'on voit, docteur Pierre Méra, sur le linceul de Turin ?
Alors, ce linge est arrivé au voisinage de mon domicile, à Liré, en Champagne, en 1350.
Alors attendez, qu'est-ce qu'on voit dessus ?
Allez, j'allais vous le dire, et il a immédiatement déclenché l'étonnement, la stupéfaction et les interrogations, car on y voit le corps nu, de face et de dos, d'un homme qui a subi des blessures, avec des taches de sang. Et traditionnellement, il était considéré, il a toujours été considéré comme le linge ayant enveloppé le corps de Jésus de Nazareth avant sa mise au tombeau. Alors, il montre essentiellement des blessures. La silhouette du corps, aussi bien la face que le dos, est très difficile à voir. Son contraste par rapport au tissu qui n'est pas marqué, son contraste est faible. Et il faut souvent, pour les gens qui travaillent, il faut souvent un éclairage très précis, perpendiculaire, pour faire apparaître des détails qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Ce qui a effectivement déclenché une très grande révolution parmi les chercheurs, c'est la célèbre photographie de Secondo Pia qui a été faite en 1888, où il est apparu une chose tout à fait stupéfiante, le corps que Secondo Pia venait de photographier apparaît en négatif. Il faut peut-être rappeler rapidement ce qu'est la photographie argentique, que plus personne ne connaît maintenant, tout le monde a des numériques dans sa poche. La photographie argentique procède par deux étapes. La première, photographie du sujet, développement et apparition de ce qu'on appelle un négatif. C'est-à-dire que toutes les couleurs, tous les contrastes sont inversés. Le noir est blanc, le blanc est noir. Deuxième opération, le tirage. On procède de la même manière. On expose le négatif à une surface argentique et les couleurs sont rétablies. Le blanc redevient blanc, le noir redevient noir. Secondo Pia a procédé à une première opération, la photographie, et il s'attendait à trouver un négatif, comme je viens de l'expliquer. Et il a eu la stupéfaction de voir que ce linge peu visible, je viens de le dire aussi, avec des contrastes assez faibles, montrait de toute évidence le corps d'un homme nu, de face et de dos.
Alors peut-être on reviendra sur la photo, en tout cas si vous devez décrire ce corps, donc quelle taille il fait, quel est son poids, dans quelle position il est sur le ossuaire.
Eh bien, sur le linceul, il apparaît comme étant à plat ventre d'un côté, sur le dos de l'autre, complètement étendu. Il mesure environ 1m80, on suppose d'après sa structure tout à fait athlétique qu'il pesait environ 80 kg. Et c'est sur cette silhouette de corps nu qu'on distingue des taches de sang.
Alors déjà, il est nu, c'est-à-dire il n'y a pas de pagne pour cacher.
Non, il est nu.
Voilà.
Il est nu et il présente des taches de sang au front, sur le côté, aux bras, aux jambes, aux poignets, aux pieds, qui méritent de longs développements, en particulier et particulièrement intéressant pour le chirurgien que j'étais, qui en a fait des études aussi précises que possible.
Voilà, il a les mains sur le devant qui sont croisées.
Les deux mains sont croisées sur le pubis.
Oui, les yeux sont fermés.
Les yeux sont fermés.
Voilà, il a une barbe ou pas ?
Il a une barbe qui est peu visible, c'est une partie du visage qui est un peu sombre, et il a une barbe. On pense que c'est une barbe d'après qui aurait deux faisceaux, une barbe bifide.
Et j'ai cru comprendre qu'il aurait une natte en préparant les
mots. Oui, on pense effectivement, sur les diapositives que je ne peux pas vous montrer naturellement, on pense qu'effectivement il avait les cheveux qui étaient tirés en arrière, et en forme de natte, c'est une position dans laquelle on ne voit pas de taches de sang, et c'est un peu pour ça qu'on pense que c'était les cheveux qui étaient rassemblés à cet endroit-là.
Donc en tout cas, c'est un homme d'à peu près 1m80, 80 kilos,
oui.
Donc, qui a été supplicié, qui porte une barbe, qui aurait une forme de natte, et qui a les mains croisées devant. C'est-à-dire, de prime abord, on ne voit que ça, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Alors, on y reviendra tout au long de cette émission, donc évidemment sur cette image, et puis sur ces histoires de datation au carbone 14, etc. Mais avant, quand est-ce qu'on a entendu parler pour la première fois de ce linge ? On cite souvent la date de 1353. Est-ce que vous nous expliquez pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'on a entendu parler ?
Il est arrivé en France, à Liré, à côté de chez moi, en 1350. Il a été exposé par Geoffroy de Charny, seigneur de Jean le Bon. Un homme important. C'était probablement un genre sénéchal. Il porte le drapeau du roi Jean le Bon. Je veux dire que ça n'était pas un tricheur. Donc d'emblée, il faut considérer que le linge qui a été exposé, il l'a exposé tel qu'il a été reçu, probablement par sa femme, Jeanne de Vergy, qui était l'arrière-arrière-arrière-petite-fille d'Othon de la Roche, chevalier qui a participé à la quatrième croisade, et qui en 1204 a probablement mis le linceul à l'abri des pillages en le préservant chez lui.
Et donc il serait resté chez lui pendant un siècle en fait c'est...
Non, il est resté chez lui à Athènes, où Othon de la Roche s'était constitué duc d'Athènes, on était facilement duc de ce qu'on voulait à cette époque-là, il s'est institué duc d'Athènes, et il a eu le linceul entre les mains à ce moment-là, car un prêtre italien, Nicolas de Casole, a dit dans ses mémoires qu'il avait vu chez Othon de la Roche, qui lui a montré les choses les plus belles qu'il avait, il avait vu le linge dans lequel le corps du Christ a été enveloppé. Nous avons un autre témoignage de la même époque, 1204, qui est celui de Robert de Clary, un chevalier, qui dit qu'il voyait tous les vendredis sur la façade de l'église Sainte-Marie des Blachernes le linge dans lequel a été enveloppé le corps du Christ déployé sur toute sa longueur.
Attendez, et où est-ce Sainte-Marie des Blachernes ? C'est... Où est-ce Sainte-Marie des Blachernes ?
La Sainte-Marie des Blachernes, c'est le secteur nord-est de Constantinople, là où Othon de la Roche était militairement affecté. Donc on pense assez facilement que Othon de la Roche a préservé le linceul en le mettant chez lui.
D'accord, donc en tout cas il arrive en France donc, au XIVe siècle, et oui. Tout de suite il y a des premières ostentations en fait
Oui, il y a eu tout de suite des premières ostentations qui ont fort contrarié les évêques du lieu, car les pèlerins allaient à Liré au lieu d'aller à Troyes, ce qu'ils auraient préféré, mais nous en avons des preuves très précises, en particulier sous la forme d'une petite plaquette qu'on appelle le méro. C'est un terme de numismatique, c'est une petite plaquette qui fait 10 à 12 cm d'un côté sur 8 de l'autre, et sur lequel on voit reproduit ce que l'on voit sur le linceul, c'est-à-dire le corps d'un homme de face et de dos. Cette plaquette a été trouvée dans la vase de la Seine en 1901, à l'occasion de travaux au pont au change. Elle a été préservée, conservée, et, chose tout à fait extraordinaire, il a été retrouvé il y a 8 ans dans un champ au voisinage de Lirey, une pierre de consistance tout à fait différente aux pierres de l'endroit, que le chercheur... Il y a beaucoup de gens qui, chez nous, se promènent le dimanche avec une canne, une baguette, pour regarder s'il n'y a pas des pierres intéressantes. Il a tout de suite compris que cette pierre était intéressante, elle a été confiée à l'érudit du village, l'avait, et on s'est aperçu que c'était la moitié d'un moule qui avait servi à fabriquer le mérou dont je viens de parler. Donc, c'est une double identification tout à fait exceptionnelle 1300 ans après la découverte du précédent.
Donc en tout cas, donc ce linceul, on va dire, passe de main en main, si je puis me permettre cette expression. Donc il est cédé au duc Louis de Savoie, donc au XVe siècle. Ensuite, il arrive à Turin, donc au XVIe siècle. Et puis il est finalement donné au Vatican par le roi Hubert II, donc en 1980. La question, c'est où est-ce qu'il était avant 1353.
Alors vous avez voilà. Commencé à Alors c'est dire. Une question difficile sur laquelle nous n'avons rien de formel, mais nous avons des préoccupations très importantes. Il faut repartir de l'époque du Christ. À Édesse, ville de Turquie, qui s'appelle aujourd'hui Urfa, il y avait un roi qui a écrit au Christ en lui disant « Je sais que tu es un type très fort, tu guéris des malades, moi je suis très malade, j'ai une maladie de peau qui me gêne beaucoup, j'aimerais que tu me guérisses. » Et le Christ, selon la légende, lui a envoyé la reproduction de son visage sur une serviette. C'est ce qu'on a appelé la serviette d'Édesse, Achaïropoïète, c'est-à-dire qu'elle a été fabriquée sans le secours des mains. Ça, c'est important. Et tétradiplone, parce qu'elle a été pliée quatre fois sur des plis que l'on voit encore. Et nous avons un témoignage qui est celui d'une religieuse qui était en pèlerinage en direction de Constantinople, qui dit avoir vu cette face. Et elle l'a décrit, on a reconstitué selon son texte, on a reconstitué la description, et on trouve quelque chose de tout à fait anormal. C'est-à-dire que ce visage, tel qu'elle le décrit, elle le place dans une surface rectangulaire que les commissaires-priseurs appelleraient le format campagne, par opposition au format face, visage. Effectivement, c'est pas comme ça qu'on aurait placé un visage. Et on pense qu'ensuite, cette serviette, on ne sait pas très bien si c'était le linge en entier ou bien simplement une serviette. En tout cas, vers l'an 900, l'empereur de Constantinople, sachant que ce linge qui était révéré, qui était précieux, qui était vénéré, était entre les mains des Sarrasins, qui avaient pris la ville, a dit c'est pas possible de leur laisser ce linge à disposition. Il a monté une petite expédition militaire qui très rapidement a pris le dessus et le linge a été récupéré. Il est arrivé à Constantinople en 900. Des fêtes magnifiques, très importantes. Il y a eu un discours prononcé par Édouard le Vénérable. Dans ce discours, c'est pratiquement un diacre. Dans ce discours, il est dit que non seulement il faut vénérer cette face magnifique sur laquelle on voit des traces de sang et témoins de supplices subis, mais aussi la blessure qui porte sur le côté d'où s'est échappé le sang et le haut. Donc, en 900, quand le linge est arrivé à Constantinople, c'était pas seulement la serviette sur laquelle il n'y avait que le visage, c'était le linge en entier, puisqu'on parle de la blessure du thorax.
Alors peut-être pour finir, avant de faire une première pause musicale, que dit l'Église aujourd'hui du linceul de Turin? Quel est un peu le statut de ce tissu pour l'Église catholique?
Vous savez, l'Église a toujours été très prudente devant les miracles, devant les expositions exceptionnelles. L'Église dit, messieurs les scientifiques, faites votre travail, nous on vous observe, on regarde. Mais l'Église ne prend pas position, l'Église ne dit pas, c'est... Le linceul du Christ, c'est une impression miraculeuse. L'Église dit, je regarde. Voilà, c'est tout.
Alors, elle dit ça, mais je veux dire, les papes se rendent à Turin pour vénérer la...
Bien sûr, les papes, il y a tous les ans...
Se mettent à genoux devant...
Tous les ans, pas tous les ans, mais enfin tous les 7 ou 8 ans, presque 10, l'archevêque de Turin organise une ostension où il y a des millions de pèlerins qui se...
Bon. D'une certaine manière, ça a un peu valeur de reconnaissance, non
c'est ce que nous pensons. Mais ça n'est pas écrit, ça n'est pas dit de manière formelle. Mais nous pensons visiblement, la manière dont les papes vont vénérer cette image dépasse largement la vénération d'une simple icône, d'une simple image.
Alors on va faire une première pause musicale et puis on vous retrouve tout de suite après. Je rappelle que vous êtes l'ancien président du CIELT, Centre International d'Études du Linceul de Turin. Et puis on parlera évidemment de la datation au carbone 14, de ce que révèle cette photographie dont vous avez parlé. Et puis surtout des multiples réalités troublantes de ce linceul de Turin.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Voilà cette émission ce matin, donc Saint-Suaire, la relique du Christ, point d'interrogation. Émission donc avec le docteur Pierre Mera, ancien président du CIELT, Centre International d'Études sur le Linceul de Turin. Alors, venons-en, docteur Pierre Mera, donc à cette histoire de datation au carbone 14, puisque c'est probablement ce que nombre d'auditeurs ont en tête. En 1988, donc l'Église a autorisé, c'était la première fois si je ne me trompe pas, à prélever un échantillon et à le soumettre à cette fameuse datation au carbone 14. Il y avait trois laboratoires indépendants qui étaient sur le coup, si je puis dire. Voilà, des laboratoires importants, l'Université d'Oxford, l'Université d'Arizona et l'Institut fédéral de technologie de Zurich. Et donc, ils ont conclu à une datation du 13e et 14e siècle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous rappeler un peu ces faits, et puis après on verra peut-être les réserves que vous pouvez avoir sur ce sujet.
Bon, première chose, il faut d'abord que les auditeurs comprennent ce qu'est la datation au carbone 14. Nous respirons tous actuellement trois sortes de carbone, le carbone 12, le carbone 13 et le carbone 14. Le carbone 12 et 13 sont des carbones stables, le carbone 14 se décompose régulièrement, continuellement, il se rétablit à partir des végétaux en particulier, et chacun d'entre nous qui respire du carbone 14 a du carbone qui se désintègre et qui se réintègre au fur et à mesure de la respiration. Si on cesse de respirer, si on coupe la plante dans laquelle il y a du carbone 14, la restauration ne se fait plus. Et la dégradation, dont on connaît le rythme, permet de mesurer la date à laquelle l'individu ou la plante ont cessé de vivre.
La dégradation, ça veut dire quoi en fait ? C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'il se décompose en une molécule d'azote et un rayonnement bêta. Voilà, c'est ça la décomposition. La molécule elle-même de carbone 14 n'existe plus. Elle donne ces deux sorties, une molécule d'azote et un rayonnement bêta.
Et donc ces deux, à partir de ces deux sorties, on peut dater en fait la...
Non, on date à partir de la quantité restante de carbone 14. À partir du moment où la plante est tuée, elle ne rétablit plus son taux de carbone 14, le taux de carbone 14 décroît régulièrement, et c'est en mesurant la quantité restante, sachant la vitesse à laquelle la décroissance se fait, que l'on peut mesurer la date à laquelle la plante a été coupée.
D'accord, alors cette précision faite, c'est la première fois que l'Église en fait, avait autorisé à cette datation. Est-ce que vous pouvez expliquer dans quel contexte ça s'est fait ?
Ça s'est fait très mal. Ça s'est fait très mal dans la mesure où les principaux acteurs des travaux sur le carbone, sur le linceul de Turin, ont été évincés. Les principaux acteurs, ce sont les Américains qui avaient proposé 8 laboratoires dont ils contrôlaient parfaitement les capacités. Ils ont été, sans être prévenus, ils ont été évincés et on en a choisi 3 qui sont de bonne qualité. Je ne mets pas du tout en doute leurs compétences. Mais les Américains ont été évincés. Ça a été assez désagréable. Et puis...
Alors juste, excusez-moi, évincé par qui ? Parce qu'on imagine que c'est quand même l'Église qui avait autorité sur ce prélèvement. Oui.
Par l'Église, à l'époque c'était le cardinal Balestrero qui était le gardien du linceul. Et il a choisi, il a dirigé lui-même les opérations, il a choisi les laboratoires et il a choisi les opérateurs qui ont agi sur le linge, qui n'étaient pas du tout ce que l'on pensait. Certains étaient simplement des commerçants en industrie, ça n'était pas du tout les gens auxquels on pensait. Donc les laboratoires ont reçu leur prélèvement, ils ont fait leur travail, mais ils n'ont pas fait leur travail comme ils auraient dû le faire, comme on aurait dû le faire, c'est-à-dire dans le secret complet. Ils ont échangé leurs informations. Les moyennes des résultats, puisque chaque laboratoire a produit une cinquantaine de résultats, ils ont répété, c'était tout à fait normal, ils ont fait leur technique normalement. Les moyennes ont été établies de manière probablement, à notre avis, excessive, c'est-à-dire qu'il y a eu des résultats tout à fait différents qui n'ont pas été pris en compte. Bon. Bref, l'opération elle-même a été, à notre avis, mal conduite. Une opération de cette importance-là aurait dû être précédée d'essais, de répétitions, de tests sur d'autres tissus pour vérifier. L'inventeur de la méthode, si on peut dire, le professeur Harry Dove...
Attendez, excusez-moi, juste, quand vous dites « on », c'est qui ? Parce que les auditeurs peuvent très bien se dire « bon, mais oui, enfin, lui, il est ancien président du CIELT, il est acquis à la cause. » Est-ce que l'ensemble de la communauté scientifique, enfin la majorité, je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais s'est interrogé sur les résultats de ce test ?
Oui, et actuellement, je comprends que vous vous intéressiez au carbone 14, mais actuellement, cette opération n'a plus aucun cours parmi... La communauté scientifique, quelle qu'elle soit. Il y a trop d'anomalies et d'erreurs, je vais en citer quelques-unes, pour qu'on puisse en tenir compte. Jamais un laboratoire de police, par exemple, n'aurait pris en compte un tel résultat. Tellement il y a eu d'anomalies, de manipulations, de manières de faire inacceptables.
Alors peut-être vous pouvez dire quelles sont...
Par exemple, le prélèvement. Le prélèvement a été fait dans un endroit tout à fait inapproprié.
Sur le bord, c'est ça ?
Sur l'angle par lequel on tient inévitablement le linceul quand on le présente à la foule. Il a été tripoté, si on peut dire, des centaines de fois aux ostensions. On a trouvé, en examinant le voisinage de l'endroit qui a été prélevé, on a trouvé qu'il y avait des fibres de coton dans les prélèvements. De quelle origine, on ne le sait pas, mais probablement pour renforcer un endroit qui était justement fragilisé par tant de manipulations.
Alors qu'il n'y a pas de fibres de coton sur le reste du linceul.
Jamais.
Voilà.
Pas du tout.
Pour le préciser.
Pas du tout. Ça a été une des premières choses. Et puis ensuite,
On dit qu'il y avait des traces de brûlure aussi sur ce bord, c'est ça ? Il y aurait eu des traces d'un reste d'incendie datant du XVIe siècle.
Ah non, les incendies, ça on en parlera peut-être après, c'est autre chose. Donc d'accord. C'est pour vous dire que le prélèvement a été très mal fait, de façon tout à fait inacceptable, quel que soit le résultat. Je redis, un laboratoire de police n'aurait jamais accepté cette manière de faire. Donc actuellement, on n'est pas surpris de cette anomalie, et on a surtout des preuves tout à fait inattaquables de l'existence du linceul bien avant les chiffres donnés par l'analyse. L'analyse a merveilleusement trouvé les chiffres qui correspondent à la présence du linceul à Liré. 1530, alors que les chiffres donnés, c'est 1260, 1390. Ça tombe pile, c'est très bien, voilà.
1330, vous voulez dire, en fait. 1350, oui. Non, vous avez dit 1530, pardon, c'est pas grave.
Oui, pardon.
Alors, tout de suite, la question qui vient, c'est, avant qu'on passe à autre chose, hein, c'est oui. Promis, on va pas faire toute l'émission sur le carbone 14, mais c'est tout simplement, pourquoi est-ce que l'Église, dans ces cas-là, a pas, 2 ans ou 3 ans après, dit, bah très bien, on va refaire une datation au carbone 14, et cette fois, on va faire en sorte que les conditions soient réunies, et puis oui. On va prendre un échantillon au milieu du linceul.
Exactement, on y a pensé. Le cardinal Balestrero, en mourant, a dit... Oubliez le carbone 14, j'ai été trompé. Il l'a dit, j'ai pas peur de le dire au micro. Alors, la douche a été tellement froide qu'on n'a pas voulu en reparler. D'autant plus qu'on a, j'allais vous le dire, des preuves certaines de l'existence du linceul 100 ans avant les dates données par les laboratoires. En 1120, il y a au dos d'une miniature représentant le linceul, il y a ce qu'on appelle des neumes, c'est-à-dire les signes utilisés à cette époque-là pour représenter la musique. Ils ont été à ce moment-là remplacés par les signes que nous connaissons actuellement, qui sont les signes de la musique grégorienne, mais avant, il y avait des neumes. Et les neumes ont cessé d'exister en 1100-1120. Donc, on a la preuve, étant donné que cette miniature qui représente le linceul est parfaitement identifiée par des traces de brûlures que l'on voit aujourd'hui sur le linceul de Turin. Donc, c'est bien ça qui a été dessiné et sur lequel il y a eu des neumes. Donc, le linceul existait, tel qu'on le voit, il existait en 1120.
Alors, ces précisions faites, maintenant parlons des multiples réalités troublantes qu'il y a sur le linceul de Turin. La première et la plus importante, c'est donc que ça serait une image qui serait tridimensionnelle. Alors, est-ce que vous nous expliquez ce que ça veut dire, tridimensionnelle ? Pour vous introduire, je dirais juste que c'est, comment dire, la NASA s'en est occupée, donc en 1976, oui. Et donc a découvert cette propriété ou a confirmé la propriété de cette image.
Oui, c'est la seule image naturelle que l'on puisse dire tridimensionnel. Il y avait à la NASA, à l'époque qui se préparait à réaliser un alunissage, un scientifique qui existe toujours, M. Jackson, qui était en charge de l'étude des terrains sur lesquels le module lunaire allait se poser. Et il a eu l'idée de présenter à son... lecteur d'ordinateur, aujourd'hui tout le monde en a, les lecteurs de 3 dimensions. Il a eu l'idée de lui présenter une photographie du linceul tel que tout le monde peut en avoir une. Et il a eu la stupéfaction de voir apparaître un agrandissement en relief que personne n'avait jamais vu. Donc, c'est là qu'on a compris que l'image comporte des éléments de tridimensionnalité qui ont été très bien définies, c'est-à-dire que les densités, la tonalité qui dessine le linceul, la tonalité des différents emplacements, est inversement proportionnelle à la distance qui sépare le linge du support sur lequel on veut l'imprimer.
Alors vous pouvez réexpliquer ça, excusez-moi, j'ai pas compris.
Pardon, c'est
une mission pour les nuls. Donc
il y a un coefficient très exact entre la densité plus ou moins importante, c'est plus ou moins brun, c'est plus ou moins noir, c'est plus ou moins clair, et le support sur lequel on va déposer cette image. C'est proportionnel à la distance. Plus le linge est éloigné, ou plus le sujet est éloigné, plus l'image est pâle. Par exemple, le nez est plus foncé que l'intérieur des orbites, qui sont plus éloignés. C'est ce qu'on appelle l'expression de la tridimensionnalité. Et cette chose est absolument propre au linceul. On ne la retrouve dans aucune image naturelle. Ça n'existe pas.
Alors, ce qu'on pourrait se dire, c'est que cette image a été peinte, je ne sais pas, par un génie qui aurait justement conscience de cette tridimensionnalité, donc on va dire, ouais. au pire, au XIIe siècle. Mais semble-t-il, cette image n'a pas été peinte. Est-ce que vous pouvez expliquer qu'est-ce qui certifie qu'en fait, elle n'aurait pas été faite de main d'homme ?
Eh bien, c'est qu'elle est irréalisable de main d'homme. C'est une image impossible à réaliser. Évidemment, elle n'a pas été peinte. Il n'y a rien de plus facile que de mettre en évidence une peinture, un colorant quelconque. Elle n'a pas été peinte. Oubliez ça très rapidement.
Et puis on voit parfois aussi, j'ai cru comprendre qu'en fait, quand on peint, évidemment, on voit la trace du mouvement, c'est ça ?
Bien sûr. Les experts du Louvre savent vous dire si le tableau a été peint de la main droite ou de la main gauche. On ne voit pas ça du tout. Donc il n'y a aucune peinture. Bon. La coloration des fibres est inférieure à une épaisseur de 5 microns, c'est-à-dire 5 millièmes de millimètre. Elle a été faite par quoi ? Je viens de vous dire qu'elle n'a pas été peinte. Elle a été faite par une transformation de la cellulose du lin, que les chimistes, ne me demandez pas de vous donner des explications, je ne suis pas chimiste, appellent une décarboxylation oxydative de la cellulose du lin.
Ça me rassure, vous ne comprenez pas tout. En tout cas, qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est... Alors, la cellulose du lin a été transformée, on ne sait pas comment et on ne sait pas par quoi. Et elle a été transformée de telle manière que les chimistes disent qu'elle a subi une décarboxylation. C'est le mot chimiste. Moi, je ne peux pas vous l'expliquer, je ne le suis pas, mais c'est pour vous dire que...
Il y a une transformation de la matière, en tout cas.
Il y a une transformation de la matière. Le phénomène a été purement physico-chimique.
Alors, si on avance, il y en a d'autres. Une que vous vouliez souligner, c'est l'absence de contour. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est aussi important à préciser ?
Alors, cette transformation de la substance cellulosique du lin porte sur des fibrilles qui sont microscopiques, qui ont environ une centaine de microns d'épaisseur, et qui sont colorées pratiquement une par une. C'est-à-dire que là où il n'y a plus de couleur, la fibre est blanche. Une fibre blanche peut voisiner avec une fibre colorée. Ce qui serait tout à fait impossible à faire si on le faisait à la main d'une manière ou d'une autre.
Oui, parce que la fibre est minuscule, évidemment.
Les fibres sont microscopiques. Mmh. Voilà. Donc, il n'y a pas non plus de contour. C'est simplement l'arrêt de la coloration qui fait que le dessin prend forme. Il n'y a pas de ligne de contour. C'est un des caractères tout à fait irremplaçable et qu'on ne peut vraiment pas copier. Impossible.
Pour finir, il y a d'autres éléments à mentionner donc dans ce tissu qui sont extrêmement troublants et qui peut-être peuvent contribuer à une autre datation que celle du carbone 14. Alors je l'ai dit en vrac et puis après vous préciserez. La première, c'est l'affaire des pollens. Est-ce que vous pouvez parler des pollens ? La manière dont a été tissé aussi ce tissu et puis les inscriptions qu'on voit autour.
Oui.
Alors, les pollens, si on doit commencer par les pollens.
C'est tout le monde possède des pollens et il suffit que vous reveniez d'un voyage en Israël, vous allez avoir sur vos vêtements des pollens qui viennent de la mer morte. Ça n'est pas quelque chose de très spécifique, mais il est néanmoins très intéressant quand on fait la courbe de fréquentation des pollens qu'on trouve sur le linge, de voir que deux pollens, dont en particulier Gundelia tournefortique, qui est le plus important des pollens, ils ont un taux de présence infiniment plus élevé que les autres, et ce sont des pollens autour de la mer morte. Bon, c'est une possibilité, mais enfin n'importe quel linge peut avoir traîné autour de la mer morte et recueilli des pollens de cette manière-là. Ce n'est pas en soi un élément d'authenticité.
Oui, enfin, il n'y a pas n'importe quel linge qui se promène le long de la mer morte.
Voilà. Quand même,
oui. Donc ça, c'est les pollens. Après, sur le filage, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose autour du filage.
Alors, le tissu n'est pas n'importe quel tissu. Ça n'est pas, vous savez, on crucifiait énormément en Palestine à cette époque-là. On jetait les corps probablement à la voirie. Parfois, on les enveloppait dans un tissu. Mais ce tissu est un tissu précieux. Il a été tissé sur un métier à 4 pédales, de 4 mètres de large, sur un tissage en chevron, et les fils sont parfaitement identifiables, on voit très bien comment il a été tissé. On a coupé, pour envelopper le corps, on a coupé une bande à la demande de l'acheteur, sans aucun doute, on a coupé une bande d'1,10 m de large, et au bord de cette bande, on a également coupé une bandelette de 10 cm de large, qui a probablement été utilisé, pense-t-on, pour attacher le linge autour du corps. Et cette bandelette a été recousue, on ne sait pas à quel moment. Elle a été recousue, mais elle a été tellement bien recousue, un point tellement fin, que très souvent, on l'a oublié. Ce n'est que depuis une trentaine d'années qu'on parle de la bandelette latérale. Et la personne qui est l'experte en tissu, qui a décrit cette bandelette et cette couture, dit qu'elle n'a jamais vu un point aussi fin, aussi particulier que ce point de couture qu'elle a appelé la couture de Masada, c'est-à-dire l'endroit où l'on recueille les urnes de Qumran dans lesquelles il y a eu des tissus qui ont été recousus de la même manière.
Donc en Terre Sainte aussi.
Bien sûr, en Terre Sainte, sur la falaise de Masada au-dessus de Jérusalem. Et on pense que ce tissu est vraiment cousu de cette manière-là, donc c'est un élément d'authentification indiscutable.
Alors les deux derniers éléments avant qu'on fasse cette deuxième pause musicale promise, ça serait donc ces histoires de pièces posées sur les yeux de cet homme et les inscriptions qu'on peut trouver autour.
Il y a effectivement un jésuite américain qui a découvert dans les années 70 une tache sur l'œil droit. Et elle représente ce qu'on appelle un lepton, c'est-à-dire une pièce de l'époque, sur laquelle il y a une gravure qui permet de l'authentifier parfaitement, c'est-à-dire la houlette de César. Et sur le marli de la pièce, on peut lire Tibère César. C'est une pièce qui a probablement été placée sur les paupières, comme c'était la règle, l'habitude. Un peu, peut-être pour payer le passeur du Styx, mais aussi pour maintenir les paupières fermées. Et on pense que il y en a eu aussi, mais on ne la voit pas, sur l'œil gauche, mais celle-là, on la voit bien sur l'œil droit. Et c'est, à mon avis, c'est une résurgence de culte traditionnel, en même temps que pour nous, c'est une pièce d'identification, puisqu'elle est marquée de Tibère César.
Et les lettres autour?
Alors les lettres, c'est d'autres choses. C'est le professeur Marion qui a découvert ces lettres-là. Il était professeur à l'Institut d'Optique de Paris. Et on distingue, on ne sait pas très bien, mais on distingue des mots qui sont difficilement explicables. Sur un côté...
Je croyais qu'il y avait écrit Jésus de Nazareth.
Non, il n'y a pas Jésus de Nazareth.
Ah, bon,
il y a Nazaréen d'un côté. Il y a Ictus de l'autre, qui veut dire un peu en latin. Alors là, à ce moment-là, Nazaréen, c'est en hébreu. L'autre est en latin. Tu iras à la mort. Ibis. Il y a d'autres lettres encore, c'est très confus, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Il y a actuellement un informaticien qui travaille dessus, qui a repris ce travail. On va avoir des informations, mais pour l'instant, sachez simplement qu'on a distingué des lettres, mais on ne sait pas très bien lesquelles.
Voilà, en tout cas, si on doit résumer cette deuxième partie, vous dites que la datation au carbone 14, la grande majorité de la communauté scientifique aujourd'hui considère qu'elle n'a pas été faite dans des conditions sérieuses.
Non.
Voilà, qu'il y a un certain nombre de choses sur ce tissu qui sont extrêmement troublantes. Donc, ses propriétés tridimensionnelles et un certain nombre de choses qui attesteraient le fait que ce tissu viendrait du 1er siècle. Donc, les fameuses pièces, les pollens, le filage, etc. On va faire une deuxième pause. Et puis après, puisqu'on est sur Radio Présence et qu'on est en entrée de la Semaine Sainte, j'aimerais que vous nous parliez plus longuement en fait, de ce que cet homme a subi et peut-être au regard d'un certain nombre de propriétés, ce qu'on peut faire le choix, certains peuvent faire le choix d'y voir aussi une trace de la résurrection.
Que le chemin commence, c'est à la croix qu'on trouve le salut. Elle se dresse là, tel un phare immense, et sa lumière nous montre le but. L'homme sans elle, égaré par le doute, voit approcher la mort avec effroi. Mais Jésus lui dit : je suis la route. Par moi, c'est sur la croix que ton amour rayonne, traçant pour nous un lumineux chemin. Et c'est là que le Père pardonne. Dans ses bras à tout le genre humain. Oh, vous qui cherchez un cœur qui vous réponde, et n'avez pu le trouver ici-bas. Oh, venez. Venez, il n'en est qu'un au monde. Voici l'amour qui seul ne trompe pas. Celui qui le reçoit chemine plein de joie depuis la croix jusque dans l'éternité.
Présence. Emmanuel Pella.
Voilà, cette émission ce matin, donc Saint-Suaire, la relique du Christ, point d'interrogation, avec le docteur Pierre Méra, ancien président du CIELT, Centre international d'études sur le linceul de Turin. Alors, pour ceux qui nous prendront en cours de route, on a vu avec vous, en fait, vous avez décrit ce qu'il y avait sur cette image, fait l'histoire de ce tissu, reparler de la datation au carbone 14 et des multiples choses qui posent des questions, très profondes, en fait, sur la nature de ce tissu, en tout cas, la manière dont il aurait été, créé. Donc, dont l'image se serait imprimée dessus. Peut-être vous voulez faire une précision avant qu'on aille un peu plus loin.
Je voudrais revenir sur deux points importants sur la manière dont le tissu a été marqué. Premièrement, le sang. Chacun sait comment le sang se dépose sur un pansement. C'est une impression de contact. On n'a aucune surprise à voir du sang à différents endroits du corps, là où le linge a pu envelopper le corps. Par contre, l'image, qui n'est pas l'image de sang, l'image de corps elle-même, est tout à fait différente. J'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est une image en trois dimensions, elle a le relief des trois dimensions, et elle n'a absolument pas été déposée sur le linge par enveloppement. Si elle avait été déposée sur le linge par enveloppement, au développement du linge, l'image aurait été totalement déformée. C'est une expérience facile à faire par tout le monde, sur n'importe quel objet, qu'on tartine de noir de fumée, qu'on enveloppe et qu'on développe, et on voit la différence. C'est pas du tout. L'image a été projetée sur le tissu d'une manière incompréhensible, exactement comme une image se projette sur une glace.
Alors, dans cette dernière partie de l'émission, je voulais avec vous que vous reveniez sur ce qu'a subi cet homme, sur ce qu'on voit de ce qu'a subi cet homme, entre autres de la flagellation d'une couronne d'épines qu'il aurait eu sur la tête. Pour vous introduire, il y a un film évidemment qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelait La Passion de Mel Gibson, et qui est sorti maintenant il y a quelques années. Et un certain nombre de remarques disaient que c'était trop sanguinolent, presque exagéré. Or, si j'ai bien compris, quand on regarde le Suaire de Turin, cet homme a subi un supplice absolument effroyable, presque pire que ce qu'on peut voir.
Oui, il a subi un très grand supplice et qui correspond exactement au texte de la Passion. Il a subi des blessures au niveau du front, les deux artères temporales superficielles qu'on reconnaît très bien. Le sang a coulé sur la nuque, par derrière, probablement dû à cette fameuse couronne d'épines qui n'a jamais été une couronne. Ça a été simplement une botte de ronce que les soldats romains ont été coupés dans la ruelle au voisinage du prétoire et qu'ils ont ficelé sur la tête du condamné en serrant bien avec un jonc quelconque, qui est probablement ce que bon, on peut adorer le Vendredi Saint à Notre-Dame sous le nom de couronne d'épines, mais je l'ai tellement vu et de tellement près avec des moyens grossissants à travers le cristal ça n'est pas une branche d'épines, c'est une branche de jonc, par exemple. Il y a eu aussi la fameuse plaie du côté qui a saigné beaucoup, d'où il est sorti du sang et de l'eau. Il y a également des traces de ruissellement d'eau à partir de cette plaie thoracique. Il y a les blessures des mains, où le docteur Barbet, qui a écrit des livres tout à fait irremplaçables sur la manière dont le Christ a été torturé, et il a montré que les clous étaient passés non pas dans les paumes des mains, parce que le poids du corps aurait déchiré, je l'ai expérimenté moi-même, mais dans les poignets, où les clous sont passés dans les espaces de Destot. C'est parfaitement exact. Au niveau des pieds, j'ai fait des opérations analogues pour montrer que les clous n'ont pas été placés là où on peut le voir, c'est-à-dire trop en avant, mais en plein au niveau de ce qu'on appelle le coup de pied, la bosse que vous avez sur le dos de votre pied, là les clous sont passés à travers le carpe.
Alors peut-être sur ce sujet, hélas l'émission touche à sa fin, mais vous qui avez énormément observé ce tissu, j'ai cru comprendre que vous étiez chrétien, qu'est-ce que le supplice de cet homme vous comment dire?
Il est évident quand on regarde une belle photographie de la face du linceul, nous n'avons pas en face de nous l'image d'un homme qui vient de subir les tortures dont je vous ai parlé il y a un instant et qui a fait le chemin de croix abominable au cours duquel il est tombé, il a reçu les poutres sur le dos, il a fallu l'aider, le relever, le traîner. C'est une image rayonnante de majesté, d'une telle majesté qu'aucun peintre n'a jamais été capable de faire autre chose que du dérisoire en essayant de la reproduire.
Alors, c'est-à-dire, non. Parce que sur le tissu, évidemment, on ne voit pas cette image de majesté. Là, vous parlez du négatif, enfin, de...
Je parle du positif. Je parle de la photographie que vous pouvez acheter dans n'importe quelle librairie d'accord, religieuse positif, oui. Qui vous montre la photographie du Saint-Suaire. Et il est exact que quand vous la regardez lentement, tranquillement, posément, vous ne voyez pas l'image qu'on décrit dans le film de Mel Gibson d'un homme abominablement torturé et sanglant. Vous voyez l'image rayonnante du Christ ressuscité.
Et sur les modalités d'impression, est-ce qu'on peut tirer des conclusions? Est-ce que les scientifiques ont de tout cela déduit qu'il aurait fallu qu'il se passe quelque chose de particulier pour qu'une telle impression ait lieu?
Non. Non, on ne sait toujours pas comment l'impression s'est faite en trois dimensions, comme j'ai dit tout à l'heure, et par quel procédé, alors que les taches de sang se sont recueillies.
Donc parfois, on entend parler d'une explosion de lumière, en fait. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas...
Non, il ne faut faire aucune supposition. Hein. Soyons objectifs, on ne sait absolument pas comment cette image s'est formée. Exposition de lumière, activation des protons pour dégager une énergie qui, etc. Non, tout ça, ce sont des suppositions. Nous avons des images à observer, nous les analysons avec nos moyens d'observation, mais il ne faut pas aller trop vite et trop loin. Il y a des travaux qui sont en cours un peu partout, mais qui n'aboutissent à rien. Nous en avons des informations régulières. Donc pour l'instant, laissons-nous subjuguer par cette image merveilleuse.
Et pour finir en fait sur ce visage que vous dites être d'un grand calme et d'une grande majesté, est-ce que c'est pas le propre aussi de visage d'un certain nombre de morts en fait, où il y a comme quelque chose qui s'apaise,
oui,
sur leur,
oui,
visage.
C'est exact. Les morts ont souvent un visage très détendu, très calme. Imaginons que leurs soucis sont évalués, les rides disparaissent un peu, et c'est souvent qu'on entendait dire « Ah, comme il était beau » ou « Ah, comme elle était belle », etc. Et il est évident que le visage que nous voyons, la photographie que nous voyons, ça n'est pas n'importe quelle, en tout cas, elle n'est pas salie. Et je vous ai parlé peut-être tout à l'heure du suaire d'Oviedo. Il y a en Espagne un Oviedo, un linceul que les Espagnols considèrent comme étant le linge qui a enveloppé la tête du Christ, tellement il était abominable et horrible à voir, couvert de sang, de crachats, de mousse, d'expectoration pulmonaire, etc., pendant qu'on allait demander l'autorisation de l'ensevelir et ouvrir le caveau. Donc, ce visage affreux a disparu, pour laisser place au visage de la résurrection.
Voilà, et bien merci beaucoup docteur Pierre Mérard. Je rappelle, vous êtes ancien président du CIELT, Centre international d'études sur le linceul de Turin. Merci beaucoup. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.